L'Orient Extrême. L'actualité asiatique vue par les missions étrangères de Paris. Une émission présentée par Duarte Mesquita d'Acuña.
Tu m'as appelé, me voici. Vous connaissez bien, chers auditeurs, cette disponibilité exprimée par le jeune Samuel au vieux prêtre Élie dans l'Ancien Testament, une disposition qui est aussi celle de notre invité aujourd'hui, Vianney Odurio, séminariste des missions étrangères de Paris, qui vient avec joie nous partager cette espérance qui le porte à l'approche de son ordination le 26 juin prochain à 15h30 à la cathédrale de Meaux. Bonjour Vianney Odurio.
Bonjour.
C'est avec vous Vianney que nous retrouvons Louise Pigna pour l'actualité des églises d'Asie et de l'océan Indien. Bonjour Louise.
Bonjour Duarte.
Alors Louise, c'est le pape François qui annonce la création de 21 cardinaux, dont 5 asiatiques.
Le dimanche 29 mai, le pape François a annoncé la création de 21 nouveaux cardinaux, dont 5 asiatiques. Monseigneur Lazarus Yu Hung Sik, préfet de la Congrégation pour le clergé en Corée. Monseigneur Virgilio do Carmo da Silva, archevêque de Dili au Timor oriental. Monseigneur Philippe Neri Ferrao, archevêque de Goa et de Damao en Inde. Monseigneur Anthony Paula, archevêque d'Hyderabad également en Inde. Et enfin, Monseigneur William Goh, archevêque de Singapour. Le collège cardinalis comptera donc 132 cardinaux électeurs, dont 20 asiatiques. Et on peut souligner que Monseigneur Paula est le premier dalit créé cardinal.
Et la nomination d'un missionnaire italien et préfet apostolique d'Oulan-Bator en Mongolie est aussi saluée.
Il s'agit de Monseigneur Giorgio Marengo, préfet apostolique d'Oulan-Bator, qui a été nommé cardinal à seulement 48 ans, ce qui en fait le plus jeune du nouveau collège. Il vit en Mongolie depuis une vingtaine d'années en tant que missionnaire de la Consolata. Ce pays aux immenses steppes compte environ 1300 baptisés sur 3,5 millions d'habitants. Les fidèles des 8 paroisses se sont réjouis. Il y a 66 missionnaires étrangers en Mongolie et 2 prêtres mongols. Monseigneur Marengo s'est dit impressionné par le geste du pape qui exprime là son attention et son intérêt pour les toutes petites communautés qui ne s'appuient que sur l'évangile vécu et sur le service humble et en dialogue.
Les catholiques cambodgiens sont invités à prendre exemple sur Pauline Jaricot, cette missionnaire laïque que nous connaissons bien.
Oui, la laïque lyonnaise, ayant vécu au XIXe siècle, continue aujourd'hui son œuvre missionnaire jusqu'au Cambodge. Le dimanche 22 mai, le même jour que la béatification, que sa béatification, Monseigneur Olivier Schmidt-Häusler, évêque catholique français, membre des MEP et vicaire apostolique de Phnom Penh, a célébré la confirmation de 48 jeunes cambodgiens dans la paroisse Saint-Joseph de Kandal, dans l'est du pays. À cette occasion, il les a appelés à suivre l'exemple de Pauline Jaricot, fondatrice des œuvres de la propagation de la foi et du rosaire vivant. Particulièrement sensible à la cause des missions d'Asie, c'est d'abord pour aider les missionnaires MEP et leur mission de Chine que Pauline Jaricot avait imaginé un ingénieux système de collecte de fonds.
Alors que l'Église coréenne complète une collection de littérature patristique en langue coréenne après 17 ans de longs travaux.
Oui, le projet avait été lancé vers l'an 2000 parce qu'il manquait des éléments en coréen pour la prédication et la recherche théologique et patristique. Aussi, un groupe de chercheurs catholiques sud-coréens s'était lancé dans la traduction des interprétations et des commentaires de l'Ancien et du Nouveau Testament par les pères de l'Église. Ils espéraient 5 ans de travail, mais ils l'ont achevé en 17 ans. La collection vient d'être achevée, rassemblant 29 volumes. En tout, 22 théologiens, biblistes et traducteurs ont collaboré. Les livres sont désormais disponibles en version papier et sous forme numérique sur Amazon. C'est une ressource de qualité pour tous les chrétiens coréens.
Merci, Louise. Je suis heureux qu'un jeune de Seine-et-Marne donne sa vie pour annoncer l'évangile dans ces pays lointains qui ont besoin, comme nous, d'entendre l'annonce de l'amour de Dieu pour tous. Chers auditeurs, ce jeune évoqué par Monseigneur Jean-Yves Namias, l'évêque de Meaux, nous avons le plaisir de le retrouver aujourd'hui. Vianney Odurio est séminariste des missions étrangères de Paris et il va être ordonné diacre le 26 juin à la cathédrale de Meaux. Alors, Vianney Odurio, votre parcours vous a mené aux portes de cette ordination. Elle aura lieu donc le 26 juin. Quel est ce parcours ?
Alors, en sortant d'école d'ingénieur, j'ai tout de suite intégré le séminaire de la Castille en entrant pour les missions étrangères de Paris. Et donc, j'ai passé 2 ans à la Castille dans le diocèse de Fréjus-Toulon. Ensuite, j'avais au séminaire, nous avions un stage obligatoire pour tous ceux qui avaient moins de 30 ans. Donc, je suis parti en Angleterre et au Cambodge. Les missions étrangères, en fait, tiennent à ce que les aspirants MEP aient un bon usage de l'anglais. Et donc, je suis parti à Norwich, dans l'est de l'Angleterre, dans un presbytère avec quatre autres prêtres. J'ai un très bon souvenir de cette période. Et ensuite, j'ai rejoint des missionnaires MEP au Cambodge. Et j'ai, pendant 6 mois, j'ai tourné de paroisse en paroisse pour vivre à peu près 2 mois avec chaque missionnaire MEP. Et enfin, je suis à l'issue de cette année, j'ai intégré. Il n'y avait plus de séminariste MEP au séminaire de la Castille. Et le Conseil des missions étrangères de Paris m'a demandé de rejoindre un séminaire où il y avait d'autres aspirants MEP. Et c'est comme ça que j'ai rejoint le studium de Notre-Dame de Vie du côté d'Avignon, dans le sud, pour finir ma théologie, faire ma théologie.
Et alors, beaucoup, beaucoup de jeunes se posent la question de ce discernement, de l'appel de Dieu. Vous parlez donc de vos études, de l'entrée dans le séminaire de la Castille. Ça a été une évidence, cet appel de Dieu. Il a fallu le sonder. Comment ça s'est passé, cette réponse à cet appel?
En fait, à 18 ans, j'étais bon en mathématiques et en physique. Donc, je suis entré en classe préparatoire. Et pendant 2 ans, je ne me suis pas posé de questions. Et en fait, quand j'ai intégré mon école d'ingénieur, j'ai commencé à me poser des questions sur le sens de ma vie. Je me disais, mes classes préparatoires se sont bien passées, j'ai une bonne école d'ingénieur. Maintenant, ce sont les 40 prochaines années qui vont bien se passer. J'avais une vision claire que maintenant j'avais ma vie en main et qu'il fallait que je la mène, que j'en fasse quelque chose. Mais au fond de moi, j'avais un problème de sens. Je sentais que mon métier d'ingénieur ne répondrait pas, en fait, ne me comblerait pas. Et j'ai commencé vraiment à me poser des questions.
Et ça, c'est quoi? C'est des événements particuliers? C'est des rencontres? C'est des qui vous ont fait sentir une certaine vacuité de ce que vous viviez? Enfin, comment ça s'est passé?
Non, c'est un sentiment de fond. C'est un sentiment de fond qui a grandi pendant 2 ans, à tel point que je me suis dit, il faut que je fasse une pause. Et je vais partir en année de césure, je vais voir du pays. Et j'avais du mal à comprendre pourquoi j'étais pas heureux, pourquoi j'avais cette remise en question de mes choix de vie.
Parce que finalement, tout allait bien.
Oui, tout allait bien. Et la société me disait, mais c'est ainsi que tu seras heureux. Et je ne comprenais pas parce que moi, je n'étais pas heureux. Et la réponse à l'époque ne venait pas forcément pour moi, n'était pas évidente que le Christ était la réponse à ma question. Je suis issu d'une famille catholique, mais à l'époque, il n'y avait pas de, ça n'avait pas de, ça ne paraissait pas pertinent pour l'instant. Mais du coup, je me suis dit, je vais faire une année de césure, de pause, et cette angoisse, ce marasme de fond va passer.
Et cette année, vous allez la consacrer à quoi précisément?
Alors, cette année de césure, je me suis dit, il faut que je voie du pays, et le petit coup de blues que je commence à avoir depuis 2 ans va passer. Et du coup, je m'y suis pris très tard. Et on m'a parlé des missions étrangères de Paris. J'avais un ami qui était parti avec eux, avec les missions, en Inde. Je me dis, pourquoi pas. Et puis, l'avantage, c'était très rapide. J'ai postulé en mai et en juin, enfin 3 semaines après, on m'a annoncé un pays de mission et la session de formation. Et je partais en septembre.
Et donc, vous êtes parti dans quel pays à ce moment-là?
Alors, je suis parti au Vietnam, dans un séminaire, dans le diocèse de Vinh, dans le nord du Vietnam. Et j'ai vécu 6 mois comme professeur d'anglais avec 40 séminaristes.
Donc là, c'est un changement radical d'environnement, d'habitude. Qu'est-ce que vous tirez de cette mission? C'était des joies extraordinaires? C'était une banalité de tous les jours qui était habitée? Qu'est-ce que c'était?
Au début, c'était extrêmement grisant parce que j'étais on était deux Occidentaux à 100 km à la ronde. J'aspirais à vivre une aventure et j'étais en plein dedans, quoi. Et j'étais vraiment très, très heureux. Et en fait, la joie des séminaristes vietnamiens a commencé à me perturber Parce que je comprenais pas, ils avaient renoncé à tout, ils avaient renoncé à une femme, à des enfants, à un métier, et ils étaient plus joyeux que moi.
Et puis il y a des conditions de vie difficiles
plutôt,
quand même,
plutôt,
parce qu'ils se levaient tôt, ils se couchent tard, ils travaillent beaucoup.
Ouais. Ils se levaient tous les matins, la messe c'était à 5h du matin, sachant qu'en paroisse elle était à 4h30. Et alors j'essayais de les accompagner, et même quasiment tous les matins j'allais à la messe à 5h. Et bon, physiquement, c'était un peu dur. J'étais pas en grande forme, mais leur joie, et puis j'avais besoin de vivre cette fraternité avec eux. Et leur joie, en fait, a été le début d'un grand questionnement et même d'une pointe de jalousie en me disant je veux leur joie.
Et donc là, vous avez dit pourquoi pas?
Je me suis dit, quand ils me posaient la question à la fin des 6 mois, parce que les Vietnamiens me posaient souvent la question à la fin, est-ce que tu veux devenir prêtre? Je leur disais, c'est 50-50. J'avais pas spécialement ressenti l'appel, mais leur joie était trop communicative.
Et je voulais la même. Ce pourcentage s'est inversé.
L'Esprit Saint a pris les choses en main pour inverser, pour augmenter le pourcentage. Ouais.
Alors, de la question, on tire un petit témoignage. 5h30 au séminaire, quelques silhouettes apparaissent dans les couloirs. Elles rejoignent d'un pas silencieux la chapelle. Le Saint-Sacrement est exposé pour une demi-heure d'adoration. Ensuite, les laudes, le petit déjeuner et la journée peut commencer. C'est ce que vous écriviez donc dans votre deuxième année de philosophie dans le diocèse de Fréjus-Toulon. Vianney Odurio, vos journées de séminaire, à quoi ressemblaient-elles? Parce que finalement, on voit souvent des séminaristes, on se dit, ils entrent au séminaire, ils étudient Dieu et ils ressortent prêtres. Mais qu'est-ce que c'est qu'une journée de séminaire?
Vous aviez bien commencé à décrire. Alors, le matin, c'est assez libre, chacun peut se lever à l'heure qu'il veut. Mais il y a quand même un impératif. À Toulon, on avait l'impératif d'être à 7h dans la chapelle pour une demi-heure de prière. Ensuite, donc, le petit déjeuner, etc. Et les cours commençaient à 8h30. Et on avait généralement 4-5 heures de cours par jour. La messe au milieu de la journée, c'était très important. Et l'après-midi, c'était un peu différent. Ça dépendait du jour. Il y avait du sport, il y avait des journées d'études, il y avait parfois d'apostolat. C'était très différent.
Donc c'était très complet, très structurant. Ça vous a formé, ça vous a marqué aussi ce temps.
Ouais, alors, oui, la formule qu'on nous propose est très complète, très équilibrée, avec des grandes plages de prière, communautaires et individuelles, et ça m'a beaucoup marqué. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est le matin, justement, ces silhouettes qui se levaient à 5h30 pour les prier. Moi, je les rejoignais à 6h du matin. Je me levais à 6h du matin et à 6h20, j'étais dans la chapelle. Et il y avait ce vieux prêtre qui était là dès 5h30 du matin dans la chapelle et qui était fidèle, qui était là tous les matins. Et il y en avait 2-3. Et ça m'a beaucoup marqué. Je sais que ce prêtre, c'était un vieux prêtre qui est maintenant à la retraite, a beaucoup, beaucoup marqué les jeunes prêtres formés à la Castille. Et moi de même.
Donc c'est une première pierre sur le chemin finalement.
Exactement, oui.
Et alors, vous parlez de cette variété de la formation, des matières qui étaient proposées, l'exégèse, la morale fondamentale, la métaphysique, la théologie, la psychologie. Et vous dites tout ce que Rome exige dans la ratio et qui peut être utile à un prêtre du XXIe siècle. Un prêtre du XXIe siècle, c'est quoi pour vous?
Ouais, c'est une bonne question. Peut-être que tout le monde cherche encore la réponse, mais... C'est un prêtre, je me souviens, nos professeurs nous avaient dit, vous allez voir, vous pouvez annoncer le kérigme à un homme dans la rue, si ça ne touche pas ses attentes, si ça ne touche pas ses questions, ça ne sert à rien. Et les questionnements qu'on a dans notre vie, eh bien, ça demande quand même beaucoup d'outils philosophiques. Et donc, voilà, le but de la formation, c'est de nous armer, de nous équiper un petit peu pour montrer qu'on est capable de réfléchir et de partir des aspirations des hommes.
Donc connaître l'homme pour parler de Dieu. Merci Vianney Odurio. Nous écoutons avec vous un chant de louange de jeunes catholiques vietnamiens, Razoy Quang Duc Kito.
1, 2, 1, 2, 3. Anh em ơi, khác biệt nhau ra khơi, ta tha khơi, đi về muôn nơi, cho hôm nơi, khác biệt vui không ngơi, ta thân ngơi, đi về yêu ra khơi, ta ra khơi, dù bắt chơi thôi, bay chơi vơi, khác biệt ta buông lời. Anh em ơi, xin
Nous avons écouté un chant de louange de jeunes catholiques vietnamiens et nous retrouvons Vianney Odurio, séminariste des missions étrangères de Paris, à la veille de son ordination diaconale le 26 juin prochain à la cathédrale de Meaux. Alors, Vianney, comme le veut la tradition des missions étrangères de Paris, vous allez recevoir votre pays de mission, celui dans lequel vous servirez toute votre vie, donc envoyé à vie auprès du peuple chrétien qui y vit. Un peu d'appréhension. Comment est-ce que vous vivez cette attente ?
Il faut vraiment le vivre dans la confiance avec le Seigneur. Parce que c'est pas comme en France où on nous donne, l'évêque nous donne une paroisse et on va y passer 6 ans. Là, c'est vraiment le pays qui va, a priori, en fait, nous engager pour les 40 prochaines années. Et bien sûr, il y a des pays où on n'a pas très envie d'aller, il y a des pays où on aimerait bien aller. Mais la seule manière de le vivre, de pouvoir le vivre sereinement dans la paix et de ne pas être angoissé par cet événement, c'est de s'abandonner au Seigneur. C'est simplement, moi, au milieu de ma formation, j'ai beaucoup demandé au Seigneur s'il me voulait bien aux missions étrangères de Paris ou s'il souhaitait que je rejoigne l'une de ces deux mots. Et j'ai vraiment eu cette paix du cœur de que le Seigneur me disait « Reste aux missions étrangères de Paris, ne change rien, ne touche à rien ». Donc, depuis le début, il est aux commandes. Alors, je me dis qu'il l'est toujours, qu'il n'y a pas de raison qu'il ait arrêté, et que le pays de mission qui va me donner sera le pays où il me veut pour ma vie.
Donc ça exige une connaissance de la bonté de Dieu qui n'est pas une connaissance intellectuelle, il faut l'avoir vécu. Vous appuyez sur des expériences concrètes de votre vie, de moments où vous savez que Dieu a été bon, qu'il a été là. Peut-être que pour ceux aussi qui réfléchissent à leur vocation, qui veulent savoir qui est Dieu et qui est Dieu dans ma vie, ça peut peut-être leur parler.
Depuis le début, quand je suis revenu du Vietnam, je disais vraiment c'est 50-50. Et puis, j'ai croisé un père des missions étrangères de Paris qui m'a dit « Écoute, Vianney, on a un foyer une propédeutique pour discerner l'appel. » Et à ce moment-là, j'ai pris son papier, c'était aux missions étrangères, et je me suis dit, jamais je ne reviendrai aux missions étrangères, parce que la marche du célibat était trop haute. Et même si c'était 50-50, les 50% qui restaient étaient trop grands, trop forts, trop durs. Et ensuite, je suis parti en Afrique pendant 6 mois, et à la messe, j'ai reçu beaucoup de grâce, et cette voix intérieure qui me disait, donne-moi juste cette année. Donne-moi cette année, je t'en demande pas plus pour l'instant, mais donne-moi cette année. Et donc, j'ai vraiment depuis le début, depuis le séminaire, je vois le Seigneur qui tisse un fil rouge dans ma vie. Et donc, on expérimente cette Dieu qui nous dirige et auquel il faut s'abandonner, en fait.
Donc une année finalement que vous avez donnée à Dieu, vous parlez de ce chemin exigeant. On a en tête une phrase d'un prêtre des missions étrangères de Paris, hein, Geoffroy de Boissaison, qui a été ordonné en début d'année. Il disait « J'aimerais être ce prêtre que Thérèse de l'Enfant Jésus a voulu être ». Toutes ces expériences, est-ce qu'elles vous aident à comprendre le prêtre que vous voudriez être ? Et ce que font certains séminaristes à la veille de leur ordination ou pendant, ils demandent une grâce particulière à Dieu. Est-ce que vous arrivez à identifier cette grâce ?
Ouais, moi le souhait que j'ai, c'est de toujours être un homme de Dieu. En fait, on rencontre beaucoup de prêtres, de consacrés, et quelquefois on a un coup de cœur en disant c'est vraiment un homme de Dieu, c'est vraiment une femme de Dieu. Mais pour ça, il faut simplement toujours faire la volonté de Dieu, toujours chercher sa volonté, et pas forcément chercher à être parfait, pas forcément être chercher à. Ce qu'il faut chercher, c'est où est ta volonté, Seigneur ? Qu'est-ce que tu veux que je fasse aujourd'hui pour toi ? Et en fait, c'est à ce moment-là qu'on est fructueux, en fait. C'est à ce moment-là que Dieu donne sa grâce.
Et donc, des hommes et des femmes de Dieu, ce sont aussi les saints. Quel est votre saint préféré, Vianney Odurieux ?
Je pense que mes parents ont bien choisi Saint Jean-Marie Vianney. Et un de mes saints préférés, peut-être le saint que je préfère le plus. Ouais.
Et pourquoi ?
Parce que il a vécu cette radicalité de l'abandon au Seigneur d'une manière toute particulière dans sa vie. Et ça a été d'une fructuosité extraordinaire. Le mot est bien choisi, extraordinaire. Les miracles ont abondé, etc. Je recherche pas les miracles, mais je recherche de vivre cet abandon évangélique que le curé d'Ars a vécu.
Alors. Les hommes et Dieu, Dieu et les hommes, vous allez vivre un ministère qui est profondément inscrit dans une société avec des gens qui ont des aspirations, qui ont des goûts. Si vous aviez le pouvoir d'inviter maintenant pour un dîner les trois personnes que vous admirez le plus, vivantes ou mortes, quelles seraient-elles et pourquoi ?
Alors, je reprends Saint Jean-Marie Vianney, curé d'Ars, parce que il nous édifierait tous et que je pense que c'est quelque chose de rencontrer. Deux autres personnes, peut-être Saint Jean-Paul II qui m'a beaucoup touché, et c'est bête, mais peut-être le cardinal Lustiger. Je regrette beaucoup de ne pas l'avoir connu. On a beaucoup parlé et j'aurais bien voulu le rencontrer.
Et chez Jean-Paul II, qu'est-ce que vous admirez ? Vous arrivez à nommer cet attrait ?
Oui, c'était un pasteur extraordinaire qui très tôt s'est retrouvé avec des responsabilités énormes. Et il avait ce contact, cette facilité avec l'humain qui a fait qu'il a touché beaucoup de cœurs, beaucoup d'hommes. Et voilà, c'est un trait que j'admire chez lui.
Et alors le cardinal Lustiger ?
Eh bien, pour la même raison. Le cardinal Lustiger, pour la même raison, avait une capacité à toucher les cœurs, à toucher les hommes quand il discutait avec eux. Et j'admire ce trait, même si je pense que c'est un charisme naturel qu'ils avaient.
Ouais. Et ça vient, j'allais dire, ça vient d'où ? Ça se travaille, à votre avis ? C'est une simplicité de vie ? Comment rendre, en fait, ces personnes accessibles ?
Non, je pense que c'était des hommes extraordinaires. Peut-être que ce don qu'ils avaient, ce charisme, peut-être a été une grâce du Seigneur, ou peut-être ils l'avaient dès leur plus jeune âge. Je sais que Jean-Paul II, dès son, avant le séminaire, faisait du théâtre, et déjà son évêque l'avait repéré à cette époque.
Alors, peut-être avant de nous quitter, une parole d'espérance, quelque chose qui vous porte, que vous avez à cœur de donner à ceux qui nous écoutent.
Mais peut-être rappeler que la vie consacrée est belle. La vie consacrée, donc la consécration au Christ est difficile et un chemin qui peut être dur dans notre société aujourd'hui, mais elle est profondément belle et le Seigneur comble.
Eh bien, le Seigneur comble. Merci, Vianney Odurieux, pour votre présence aujourd'hui. Bien évidemment, nous vous portons avec tous les auditeurs dans notre prière. Voilà, au revoir, Vianney Odurieux.
Au revoir.
Et bien évidemment, chers auditeurs, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Orient Extrême.